La question, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Ce n'est pas une question de fait qu'on pourrait poser légitimement à un scientifique, c'est un jugement de valeur qui nous ramène à une autre question qui n'est pas la même, mais qui conditionne la réponse à la première. Est-ce que tu es capable d'aimer la vie comme elle est?
Matrioshka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Matrioshka. Merci tout d'abord de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre tous nos contenus, parfois sans être abonné, alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge pour vous abonner, ça compte beaucoup pour nous. Alors, est-on capable d'aimer la vie telle qu'elle est? Vaste question, vaste programme, et c'est aujourd'hui le philosophe André Comte-Sponville qui est notre Matrioshka et qui va nous aider à aborder ce sujet compliqué. Lui qui est l'auteur de nombreux titres de philosophie, dont le petit traité des grandes vertus, qui a connu un immense succès, ou encore, pour ne citer que celui-là, un dictionnaire philosophique dans la lignée des philosophes des Lumières. Et d'un peu de lumière, on en a particulièrement besoin aujourd'hui face à, d'un côté, le nationalisme, la guerre, l'extrémisme, le terrorisme, bref, l'obscurantisme, et de l'autre, face à l'effondrisme, au déclinisme, à la collapsologie, ou même tout simplement à l'éco-anxiété face aux enjeux climatiques, on perçoit le monde de façon assez sombre et on a besoin d'une certaine lumière. Mais attention, pas cette lumière au bout du tunnel qui serait une sorte de solution à tous nos problèmes complètement irréels. Non, cette lumière qui permet pas à pas d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui nous anime et de prendre le plaisir de penser.
Souvent, les gens me demandent pourquoi je suis devenu philosophe. Je réponds qu'au fond, c'est parce que j'étais peu doué pour la vie, peu doué pour le bonheur, depuis mon enfance et sans doute à cause de mon enfance. Alors, je me suis découvert en terminale assez doué pour la pensée en général et pour la philosophie en particulier. J'ai quand même fait quelques essais de poèmes, de nouvelles, de débuts de romans, que sais-je. C'était d'une tristesse à pleurer, hein, à pleurer. Et dès que j'écrivais des textes de pensée, il y avait une espèce de tonicité joyeuse.
Ah oui.
Je me suis dit, on va essayer d'aller là où il y a de la lumière, si vous voulez. Vous voyez. Et donc j'ai entrepris, très logiquement, de mettre ma puissance de pensée au service de ma faiblesse de vivre. Si vous voulez. Voilà. Parce que des gens qui sont très doués pour la vie, pour le bonheur, à la limite, ils peuvent se passer de philosopher. Alors, ils pourraient philosopher quand même pour le plaisir, pour l'intérêt intellectuel de la chose, mais moi... qui trouve que la vie est vraiment difficile à aimer, moi je suis plutôt porté à la mélancolie, à l'anxiété, j'avais besoin de beaucoup philosopher pour trouver la vie simplement supportable. Et les bons jours, je la trouve même carrément aimable. Donc.
Je rebondis sur le mot « la lumière » que vous avez employé là, pour trouver la lumière, la philosophie, juste par rapport à justement cette transmission, même par rapport aux philosophes des Lumières, vous avez écrit aussi le dictionnaire philosophique. Il y a cette idée aussi par la philosophie de transmettre la lumière et d'une certaine façon, quelle lumière on peut transmettre?
Transmettre les lumières.
Voilà.
Ce qu'on appelle les lumières en France et plus généralement en Europe, c'est quoi? C'est ces idées qui sont nées, en tout cas qui se sont développées fortement au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est-à-dire la raison plutôt que la déraison, la raison plutôt que la religion ou que la foi, l'humanisme plutôt que le nationalisme, la liberté plutôt que l'oppression. Donc moi j'ai horreur de l'obscurantisme, j'ai horreur du fanatisme, j'ai horreur de l'intolérance et les idéaux des Lumières, c'est le contraire de tout ça. C'est le rationalisme, la raison, l'humanisme, la tolérance et c'est de ça qu'on a besoin.
Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire?
Oui, c'est une phrase de Diderot justement.
Pourquoi?
Mais parce que l'humanité étant ce qu'elle est, elle est toujours menacée par la violence, par le fanatisme, par la bêtise. Il n'y a pas de fanatisme intelligent. Mais il y a des gens intelligents qui sont des fanatiques, hein, et donc qui deviennent bêtes à force de fanatisme. Voilà, l'humanité est toujours menacée par le pire, le fanatisme, spécialement en matière religieuse, le nationalisme, spécialement en matière politique. Il y a une guerre en Ukraine, et donc en Europe. L'humanité est menacée pas par l'égoïsme. Alors, si on reprend la question du développement durable, si on continue la vie économique telle qu'elle est maintenant, c'est nos enfants et pire encore nos petits-enfants qui vont en souffrir. Oui. Et donc combattre le fanatisme, combattre le nationalisme, combattre l'égoïsme, la meilleure façon, en tout cas la plus qui relève de la philosophie, c'est de développer la raison. Parce que la raison n'a pas de patrie, et donc le nationalisme est évacué, si on raisonne vraiment. La raison n'a pas de religion.
Cette question de transmettre le savoir, est-ce que c'est quelque chose qui vous a animé quand vous êtes entré en philosophie ?
Non, pas du tout. D'abord parce que je pense que le savoir, au fond, n'est pas l'essentiel des choses qui sont à transmettre. Que mes enfants sachent que E égale MC2 ou pas, je préfère qu'ils le sachent, parce que scolairement, ça, c'est le contraire prouverait qu'ils sont totalement ignorants, mais j'en ai en fait rien à faire. Par contre, que ce soit, en l'occurrence, de gentils garçons, puisque je n'ai que des fils, que ça devienne des hommes bien, ou que ça soit des hommes bien, puisqu'ils sont adultes, c'est quand même beaucoup plus important. Et puis surtout, le savoir ne dépend pas de moi. Et donc, quelle que soit l'éducation qu'ils auront eue, ils sauront au bout du compte que 2 et 2 font 4 et que E égale MC2. Et donc, ce n'est pas ça, l'éducation. Ça relève de l'instruction. Je ne suis pas instituteur. L'éducation intègre évidemment des savoirs, mais intègre surtout des valeurs. Et donc, quitte à transmettre, j'attache davantage d'importance à l'éducation, la transmission des valeurs, qu'à l'instruction, la transmission du savoir.
Donc, instruire, d'accord, mais éduquer surtout. Transmettre des savoirs, ok, mais des valeurs avant tout. Mais quelles sont ces valeurs ? Elles sont immuables, elles sont structurantes, elles restent là alors que tout change autour de soi. On va y revenir dans un instant avec André Comte-Sponville. André Comte-Sponville qui a pas mal cheminé tout au long de sa vie. Si aujourd'hui il se dit athée, non dogmatique et fidèle, lorsqu'il était bien plus jeune, il a voulu devenir prêtre. Puis ensuite, en 68, il a épousé cette croyance qu'il était interdit d'interdire. Mais en bon nouveau philosophe de l'époque, il a continué sa route et puis il est devenu père, ce qui lui a offert de nouveaux repères.
Quand on fait des enfants, on découvre qu'il n'est pas question de vivre sans temps mort et de jouir sans entraves. Les entraves, dès qu'on est père ou mère, se multiplient de façon indéfinie. Dès qu'on a des enfants, on découvre qu'il n'est pas interdit d'interdire, contrairement à ce que disait Sotman en 68, qu'il est même interdit de ne pas interdire. Et dès qu'on a des enfants, on découvre qu'il faut leur transmettre des valeurs. Et bizarrement, grande surprise, lesquelles ? Exactement celles qu'on a reçues. C'est-à-dire que notre discours de 68 art qui prétendait avec Nietzsche renverser toutes les valeurs, dès qu'on a des enfants, ça tombe parfaitement à l'eau, parce qu'on découvre qu'il faut non seulement transmettre des valeurs, mais qu'en gros, ce sont celles que nous avons reçues, c'est-à-dire ces bonnes vieilles valeurs judéo-chrétiennes, dont il était de bon ton, quand j'avais 16 ou 20 ans, de considérer qu'elles étaient toujours répressives, castratrices, culpabilisatrices, bref, qu'il fallait s'en passer.
Alors qu'est-ce que c'est ces valeurs fondamentales judéo-chrétiennes sur lesquelles on
s'appuie ? Elles ne sont pas seulement judéo-chrétiennes, elles sont aussi bien grecques, latines, bouddhistes, hindouistes, confucéennes en Chine.
Le béaba des valeurs comme ça qui apparaissent à ce moment-là, c'est quoi ?
Le béaba de ces valeurs, c'est qu'il vaut mieux être sincère que menteur, il vaut mieux être généreux qu'égoïste, il vaut mieux être courageux que lâche, il vaut mieux être doux et compatissant que violent et cruel, il vaut mieux être plein d'amour que plein de haine. Autour du 6e siècle avant Jésus-Christ, un certain nombre de personnages qui ne se connaissent pas du tout entre eux, qui n'ont aucun échange entre eux, aux quatre coins de la planète, si on peut dire, puisqu'elle n'a pas de coin, elle est ronde, mais des gens qui ne se connaissent pas vont dire en matière d'éthique l'essentiel, et pour l'essentiel, les mêmes choses. Alors ces gens, c'est qui ? C'est par exemple Confucius et Lao Tzu en Chine, c'est le Bouddha en Inde, tout ça c'est autour du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est plusieurs des plus grands prophètes hébreux en Judée ou en Palestine, c'est Zoroastre ou Zarathoustra en Perse, c'est les premiers philosophes grecs, ce qu'on appelle les présocratiques en Grèce. Alors, ça ne veut pas dire que rien ne va changer, moi qui suis athée, pour moi les valeurs elles sont historiques et les seuls changements vraiment importants portent au fond sur la morale sexuelle. Entre mes valeurs morales et celles des deux philosophes peut-être dont je me sens le plus proche, Montaigne au XVIe siècle et Spinoza au XVIIe siècle. Sincèrement, j'aurais du mal à faire passer une feuille de papier à cigarette entre leurs valeurs et les miennes, c'est les mêmes. Or, que me dit Montaigne au XVIe siècle ? Il me dit que ses valeurs morales à lui, Montaigne, c'est exactement les mêmes que celles de Socrate au IVe siècle avant Jésus-Christ. Que me dit Spinoza ? Spinoza, qui n'était pas plus chrétien que moi, me dit que ses valeurs morales à lui, Spinoza, c'est exactement les mêmes que celles de Jésus-Christ. Écoutez, j'en conclus par transitivité qu'entre mes valeurs morales et celles de Socrate ou de Jésus, il ne doit pas y avoir un abîme. Donc voilà, il ne s'agit pas du tout d'inventer de nouvelles valeurs, il s'agit de transmettre les valeurs que nous avons reçues et que donc en effet nous avons la charge de transmettre. Parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre.
Là, je vous entends parler de la morale, donc qui reste d'une certaine façon un peu immuable. Aujourd'hui, par exemple, lorsque je vous lis sur la morale, c'est l'ensemble de ce qu'un individu s'impose ou s'interdit. J'entends ça. Simplement, par rapport aux enjeux qui se posent et aux défis de la planète, ce que je pensais être bien il y a quelques années, au regard de ce qu'on m'apprend d'une sorte de crainte, de finitude de la planète, eh bien le bien et le mal ne sont pas forcément les mêmes choses. Donc est-ce que la morale, elle n'est pas bousculée par rapport au contexte?
Non, parce que ce n'est pas la morale qui change, c'est le contexte. Il y a un incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut ouvrir la fenêtre pour aérer? Ou au contraire, ça va accélérer l'incendie. Ça, ce n'est pas un problème moral, c'est un problème technique. Donc, ou bien vous savez ce qu'il faut faire, ou bien vous ne savez pas. Mais ce que la morale vous dit, c'est simple, si tu peux sauver quelqu'un, sauve-le. Et moi, j'attends qu'on me donne un exemple de changement de la morale en fonction du contexte, si vous voulez. Parce que cette valeur dite environnementale, c'est tout sauf une valeur nouvelle. C'est une valeur, mais pas du tout nouvelle. J'entends par là que si on avait demandé à Socrate, est-ce qu'il vaut mieux transmettre à nos enfants une planète habitable, aussi habitable que celle qu'on a reçue, ou au contraire, est-ce qu'on peut la saccager indéfiniment? Il aurait dit, bien sûr, qu'il vaut mieux transmettre à ses enfants quelque chose d'au moins aussi bien qu'on a reçu.
Et en quoi la philosophie peut aider aujourd'hui à aborder ce problème?
D'abord, elle peut aider à ne pas confondre ce qui relève de la morale et ce qui relève du contexte. Donc à y voir plus clair. Et pour le reste, alors, je prends un exemple trivial, mais il faut bien prendre des exemples. La question du nucléaire. Est-ce qu'il faut être contre parce que la question des déchets est en gros ingérable et parce qu'il y a un risque d'accident grave? Ou est-ce qu'il faut être pour parce que c'est quasiment la seule source, enfin c'est l'une des rares sources d'énergie non carbonée et peut-être la plus régulière? Que répond la morale? Rien, évidemment. Elle n'en sait rien, la morale. Donc interrogez les experts. Ce que la morale vous dit, c'est en gros, prends la décision qui sera la plus profitable à l'avenir de l'humanité.
Et oui, l'avenir de l'humanité, parlons-en justement, il paraît peu florissant et l'amour du prochain semble assez entravé. Alors les valeurs de Montaigne, Spinoza, Jésus, Confucius, tout ça, est-ce que ça peut nous aider à le rendre plus beau? Rien d'évident à ça. Doit-on s'accrocher aux experts, aux scientifiques, aux chercheurs pour qu'ils trouvent des solutions à nos problèmes planétaires? Faut peut-être pas totalement rêver non plus. Peut-être dans ce cas, nous devons réorienter notre regard et moins scruter la réponse au problème que s'interroger différemment sur nos questions existentielles.
La question « la vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» ce n'est pas une question de fait qu'on pourrait poser légitimement à un scientifique, c'est un jugement de valeur qui ne relève d'aucune science et donc d'aucune expertise. Et donc le philosophe va répondre, parce que je répondrai à mes fils s'ils m'interrogeaient là-dessus.
Même s'ils ne sont plus adolescents.
Je leur dirai ce que dit Spinoza. Ça n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Autrement dit, ce n'est pas parce que la vie est aimable qu'il faut l'aimer, c'est dans la mesure où tu l'aimes qu'elle est pour toi aimable. Et donc la question « la vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» se ramène à une autre question qui n'est pas la même, mais qui conditionne la réponse à la première. Est-ce que tu es capable d'aimer la vie comme elle est? Si tu n'en es pas capable, arrête de le reprocher à la vie, reproche-le-toi à toi-même. Voilà, et donc apprendre à aimer la vie, voilà ce qu'il faut transmettre à nos enfants d'essentiel. C'est bien plus important que n'importe quel savoir, parce que ça n'est pas un savoir, parce qu'aucune science ne dit si la vie est aimable ou pas, bonne ou mauvaise, ça relève du désir. Et se faire travailler ses propres désirs, au fond, c'est l'essentiel d'une vie humaine. Et là, pour ça, la philosophie ne résout pas tous les problèmes, mais peut aider à avancer.
Justement, ça nous amène à cette question d'amour du prochain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus d'où ça vient et finalement, quel est aujourd'hui notre rapport à cet amour du prochain?
Vous savez ce que disait des proches dans un de ses spectacles? Jésus nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Personnellement, disait des proches, je préfère moi-même. Ben oui, on en est tous là. Autrement dit, il n'y a pas d'amour du prochain. Il y a l'amour pour nos enfants.
Qui est un peu inconditionnel.
c'est le seul qui soit inconditionnel.
Absolument.
C'est le seul qui soit inconditionnel. Il y a l'amour pour nos amis, pour nos parents, quand on aime ses parents, ce n'est pas du tout un devoir. Moi, j'aimais l'un des deux, pas l'autre. Je continue, je reste fidèle à
votre équilibre.
Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, ceux qui disent que l'amour n'existe pas sont des crétins. Ils n'ont pas vu l'essentiel. Ceux qui disent que l'amour du prochain existe sont des crétins aussi. Simplement, quand on aime ses enfants, sa femme, son mari, son amant, sa maîtresse, ses amis, on découvre très vite que l'amour est la valeur suprême. Aimer quelque chose ou quelqu'un, c'est se réjouir que ce quelque chose ou ce quelqu'un existe. Si on n'aime rien, on n'a aucune cause de joie.
Mais je reviens quand même sur cette idée de l'amour du prochain. Est-ce que ce n'est pas aussi l'amour de ses enfants de façon étendue, l'amour du prochain ?
Oui, c'est une façon étendue, sauf que c'est étendu dans l'imaginaire. C'est-à-dire que, voilà, comment se fait-il que j'aime tellement plus mes enfants que les vôtres ?
Parce que vous ne connaissez pas les miens.
Je ne les connais pas, mais à supposer que je les connais, ou que les enfants de mes amis. Pourquoi est-ce que je donnerais sans hésiter ma vie pour mes enfants ? Et beaucoup moins pour les enfants de mes amis ou pour les vôtres. Ce n'est pas que mes enfants soient mieux, c'est que je les aime davantage. Et on retrouve le relativisme, c'est le mot technique de la chose de Spinoza. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous l'aimons ou que nous la désirons, c'est inversement parce que nous l'aimons ou la désirons que nous la jugeons bonne. C'est quoi l'amour du prochain ? Dans mon dictionnaire philosophique, je dis l'amour du prochain, l'amour de charité, c'est l'amour désintéressé du prochain. Ça tombe bien parce que le prochain n'est pas toujours intéressant. Autrement dit, l'amour du prochain, comme il n'est pas proportionné à la valeur de son objet. Et comment voulez-vous aimer aussi bien l'imbécile prétentieux que le génie plein d'humilité, de tendresse et d'humour ? C'est difficile, si vous voulez. On en est incapable. Voilà, donc l'amour du prochain, c'est un idéal. Ça ne fait pas partie du réel, mais il ne brille que par son absence, mais il brille, il nous éclaire, il indique une direction vers laquelle nous pouvons au moins essayer d'avancer.
Vous dites aussi que c'est un amour qui est libéré de l'ego. Et je me pose la question aujourd'hui de votre perception, ou de votre lecture en tous les cas, de l'équilibre qu'il peut y avoir entre ce que vous dites, moi, l'individualisme qui est florissant de nos sociétés, et l'importance qu'on accorde au devenir des générations futures et de la planète et de sa subsistance.
Il ne faut pas confondre l'amour de soi avec le narcissisme, parce que aimer son prochain comme soi-même, ça suppose qu'on s'aime soi-même. Sinon, ça n'a pas de sens et il est tout à fait légitime de s'aimer. Sauf que le narcissisme, c'est autre chose. Le narcissisme, ce n'est pas l'amour de soi, c'est l'amour de l'image de soi. Et spécialement de l'image de soi sous le regard des autres, ce qu'on appelle l'amour propre. Une de mes amies psychiatres me disait un jour assez justement, les gens ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils sont beaucoup trop narcissiques pour ça. Et donc il faut se libérer du narcissisme, c'est-à-dire te libérer de l'ego. Ce qu'on appelle l'ego, ce n'est pas le je, le sujet, c'est l'objet qui se contemple lui-même. Je me connais, l'ego, ce n'est pas le je, c'est le me. Et donc il faut, le plus qu'on peut, entreprendre de se libérer de l'ego pour être capable d'aimer, parce que l'ego ne sait aimer que lui-même, ou plutôt l'ego ne sait aimer que l'image de lui-même. L'ego est narcissique. Voilà. Et donc, au fond, la grande aventure de la vie, c'est quand même de se libérer du narcissisme.
Cet amour du prochain a pour condition, d'une certaine façon, d'être désintéressé, nous rappelle André Comte-Sponville. D'ailleurs, historiquement, on le retrouve déjà dans l'Antiquité, puisque pour Platon, il est cet amour ni sexuel, ni de la famille, c'est cet amour désintéressé qui est cet amour platonique. C'est ce qu'on appelle l'agapé et que Jésus traduit ensuite de caritas en charité. Mais aujourd'hui, face à l'accumulation des connaissances, des scientifiques qui alimentent nos angoisses et qui font que la peur nous accompagne pas après pas, il peut paraître un petit peu difficile de cultiver cet amour de son prochain. Alors comment faire ? Que peut le philosophe pour nous aider ? Eh bien peut-être nous permettre d'ouvrir les yeux autrement pour voir différemment.
L'humanité, de toute façon, disparaîtra, comme vous, comme moi, et qu'il faut évidemment l'accepter. Alors, qu'est-ce qui me permet d'affirmer comme ça dogmatiquement que l'humanité disparaîtra ? C'est un argument simple, mais que je crois absolument convaincant. Sur un temps infini, tout le possible se réalise nécessairement. Or, la disparition de l'humanité est possible, donc elle adviendra nécessairement. Et ce n'est pas triste. C'est pas plus triste que l'humanité disparaisse que vous et moi, nous allons disparaître. Autrement dit, si on attend toujours de l'avenir pour justifier le présent, c'est une course folle qui n'a aucun sens. Imaginez que nos médecins ne fassent que on puisse vaincre la mort, qu'on puisse vivre indéfiniment, sauf un assassinat ou un accident. On aurait une peur bleue, parce que si on pouvait être immortel, sauf si on se fasse assassiner, alors la peur de l'assassinat serait extrême. Comme on sait bien qu'on mourra de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose, on sort dans la rue, on n'a pas du tout peur de se faire assassiner. Et donc c'est parce qu'on accepte l'inéluctabilité de la mort qu'on a beaucoup moins peur de telle ou telle mort en particulier. Une fois qu'on aura compris la finitude de l'humanité, qu'elle disparaîtra forcément, on aura un peu moins peur de telle ou telle disparition concrète. Ce qui n'empêche pas évidemment de tout faire pour ne pas se faire assassiner, et de tout faire pour que l'humanité ne disparaisse pas. Quant au fond, il faut bien sûr tout faire, encore une fois, pour que nos enfants puissent disposer d'une planète, si possible, aussi habitable que la nôtre. Sauf que j'ajouterais, il vaut beaucoup mieux vivre aujourd'hui qu'il y a 100 ans. On a gagné 40 ans d'espérance de vie, il y a eu des progrès considérables en matière de santé, la pauvreté n'a jamais autant reculé depuis 300 000 ans, depuis que l'humanité existe, que ces 50 dernières années. Bref, arrêtons de faire comme si notre époque était la pire à tous les égards. Autrement dit, la plus grande sottise d'aujourd'hui, c'est le « c'était mieux avant ». Voilà. Toute personne qui dit globalement « c'était mieux avant » est à mon sens un imbécile ou un ignorant.
Je voudrais vous poser une question sur le rapport qu'on entretient, selon vous aujourd'hui, à la conscience. Est-ce qu'on a une conscience éveillée ou pas, globalement ?
On n'a pas de conscience. Le pronom « on », c'est n'importe qui, c'est tout le monde. Il n'y a pas de conscience de tout le monde, il n'y a pas de conscience planétaire. Donc il n'y a que des individus. Les individus sont-ils plus conscients ou pas qu'aujourd'hui ? J'ai tendance à penser que le niveau de conscience moyen doit être une espèce de constante à peu près. Ils sont plus informés. Mais l'information, ce n'est pas le niveau de conscience. Autrement dit, quand les gens regardaient le soleil se lever à l'est, se coucher à l'ouest, ils avaient le sentiment que le soleil tournait autour de la Terre. Ils avaient moins de savoir que nous. Nous, on sait que c'est la Terre qui tourne au soleil, mais ils n'avaient pas moins de conscience. Je ne dis pas que le niveau de conscience est identique pour tout le monde.
Mais qu'est-ce qui l'augmente alors, le niveau de conscience ? Qu'est-ce qui
c'est
fait
l'attention.
Que... Alors, ça fonctionne
c'est
comment ?
Très simple. Soyez attentif à ce qui se passe. C'est-à-dire là, vous êtes extrêmement consciente de ce que je dis. Quand vous promeniez dans la rue tout à l'heure en venant, vous étiez vaguement consciente de ce qui se passait autour de vous. Mais si je vous demandais combien de gens vous avez croisés, vous n'en savez rien. Est-ce que c'était des blonds, des bruns, vous n'en savez rien. Donc votre niveau de conscience était très faible. Ça veut dire que vous êtes attentive. Je vous remercie d'être attentive à mon propos. Mais on peut être attentif dans toutes circonstances, et d'autant mieux qu'il se passe le moins de choses. Vous asseyez, hein, et vous êtes attentive. C'est ce qu'on appelle la méditation. Zazen, comme disent les Japonais, que je pratique moi tous les matins. On traduit ça souvent, maintenant les gens, pour ne pas prendre l'aspect qui a l'air religieux, bouddhiste du Zazen, qui signifie le zen assis, hein, donc la méditation assise, silencieuse et sans objet, les gens parlent méditation de pleine conscience. Voilà. J'ai toujours trouvé l'expression un peu équivoque. Moi je dis... La méditation, c'est un exercice d'attention pure. Pure parce que sans jugement de valeur, sans leçon de morale, sans condamnation, simplement, vous êtes attentif. À quoi ? À tout. Oui, mais vous êtes assise, il ne se passe rien. Ben voilà, soyez attentif à ce rien.
Ce rien, c'est tout.
Oui, votre respiration, il faut bien respirer. Ben voilà, soyez attentive à votre respiration. Et puis du même coup, il y a des idées qui vous traversent la tête, des soucis, des fantasmes. Soyez attentifs aux soucis, aux fantasmes, mais sans vous y attacher. Les textes zen disent, dès qu'on est immobile, on découvre que l'esprit n'est jamais immobile. L'esprit, lui, il bouge sans arrêt comme un singe qui saute de branche en branche, disent les textes zen. Soyez attentifs à ce singe qui saute de branche en branche, autrement dit à votre esprit, mais sans vous y attacher.
Ça produit quoi, ça ?
Ça produit en vous, au moins pendant les 20 minutes, vous faites ça 20 minutes, un peu de calme, hein, parce qu'il est très difficile d'être attentif à sa respiration et en colère. Les deux sont pratiquement incompatibles. Ça met les idées à distance, ça met le mental, comme on dit dans les traditions orientales, ça met le mental à distance. Parce que par exemple, les textes zen, là encore, disent « quand on pense, on ne perçoit pas ». Quand on perçoit, on ne pense pas. Je vous mets au défi d'être attentif à votre respiration en suivant une idée de façon un peu précise. Ce n'est pas possible. Et je vous mets au défi de poursuivre une idée en étant attentif à votre respiration.
Mais pour revenir à la question de la conscience, quand je vous demande qu'est-ce qui augmente la conscience, vous me dites la méditation.
L'attention, parce que la méditation, c'est un type d'attention, voilà. Concentrée. Mais voilà, j'aime bien les gens attentifs. Et d'ailleurs, ça vaut aussi dans la vie courante, si vous voulez. Vous êtes en difficulté, quelqu'un tout d'un coup vous aide à enfiler votre manteau, à porter votre sac, il est attentif. Et les gens qui ne pensent qu'à eux manquent d'attention aux autres par définition. Ben, voilà, donc la méditation, c'est un exercice limité dans le temps, dans l'espace aussi d'ailleurs, d'attention, si j'ose dire, concentrée. Quoi, voilà. Mais ce qui augmente la conscience, oui, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le savoir, c'est l'attention.
La formule serait donc de jongler, dans la vie courante, entre ces deux alternatives. Le plaisir de penser, de nourrir son savoir, son intelligence, de maîtriser ses valeurs, et puis le plaisir de ne pas penser, de poser son cerveau un temps dans un champ d'attention, de concentration qui augmente la conscience. Et une fois qu'on maîtrise tout ça, tant que faire se peut, eh bien on lâche tout, on apprend le lâcher-prise.
Je vois des gens, on a le sentiment que l'éducation de leurs enfants est réussie si les enfants sont comme eux. Mais surtout pas. Élever un enfant, c'est lui permettre de devenir ce qu'il est, pour reprendre le mot que Nietzsche emprunte à Pindare. Deviens ce que tu es. Voilà. Voilà, la pédagogie n'est pas un art figuratif, il ne s'agit pas de faire ressemblant, il s'agit d'aider les enfants à devenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire à être libres, y compris vis-à-vis de leurs parents. Et ça, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. C'est assez facile quand vous êtes un mauvais père, comme mon père, parce que là, la révolte va de soi. La haine, même, va de soi. Alors après, je vais pardonner, mais enfin bon.
Ça aide à s'affranchir en même temps.
C'est très bien. Non, mais c'est là où je voulais en venir. Avoir un père facile à haïr, c'est une chance formidable, surtout pour les garçons. Le problème de nos garçons d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus de raison de haïr leur père. Il est devenu tellement sympa, tellement cool, aussi sympa et cool et aimant que maman. Laisser nos enfants se révolter contre leurs parents, et notamment, mais je dis ça parce que je suis un homme, laisser les fils se révolter contre leur père, haïr leur père, bah, pas forcément, il n'est pas forcément haïssable, mais voilà. Élever un enfant, au fond, c'est lui permettre de partir. Et l'éducation est terminée quand l'enfant se sent libre de partir et arrête de se faire des soucis pour ses parents, a fortiori pour ses grands-parents. Un mot sur la pandémie, mais qu'on ait gonflé des millions de jeunes gens parce qu'il fallait qu'ils se soucient de la santé de leurs grands-parents, c'est quand même une conception de la vie que je trouve hallucinant. Ça fait 300 000 ans que les grands-parents se font des soucis légitimement pour leurs petits-enfants. Ça, c'est notre fonction d'adulte et de vieux. Mais l'idée qu'on sacrifie la vie, le confort, le bien-être, la liberté, le bonheur de nos enfants pour la santé de leurs grands-parents, je trouve que c'est un contresens sur l'existence en général et sur la jeunesse et la vieillesse en particulier.
Je vous pose ma dernière question, vous avez commencé à y répondre d'une certaine façon, mais vous la posez, je suis sûre que vous direz encore d'autres mots. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut transmettre à mes enfants, à vos enfants, à vos petits-enfants aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites?
D'abord, l'amour de la vie. Et ce n'est pas si facile que ça. L'amour de la vie telle qu'elle est, hein, pas l'amour d'une vie rêvée. Si votre jeune fille de 15 ans rêve du prince charmant,
c'est mort.
Non, mais je suis bien que je ne suis
plus comme ça.
Ça prouve qu'on progresse un peu de ce point de vue. Sinon, ça prouverait que vous l'avez mal élevée. Donc, il faut transmettre l'amour de la vie, mais attention, l'amour de la vie telle qu'elle est. Souvent, les gens me disent, est-ce que vous croyez en l'amour? Ben, évidemment, non. L'amour, d'abord, je constate qu'il existe, donc il n'y a pas lieu à y croire, puisqu'on constate qu'il existe. Alors, s'il s'agit de croire en l'amour éternel, absolu, immuable, encore moins, parce que je n'ai connu que des amours relatives, finies au sens, elles n'étaient pas infinies, mortelles. Voilà, je n'ai connu que des amours mortelles. Voilà, donc en un sens, quand je dis que je suis athée, ce n'est pas seulement que je ne crois pas en Dieu, c'est que je ne crois en rien. Il y a des choses dont je constate l'existence, l'homme, l'amour, la politique, tout ça. Bon, mais aucune ne relève d'un jugement de valeur absolu, c'est-à-dire que l'amour, si vous en faites uniquement un idéal, bah, comme tout idéal, ça n'existe pas. La sagesse, c'est un idéal, ça n'existe pas. L'amour du prochain, ça n'existe pas. Donc il faut se ramener au réel.
Merci infiniment André Comte-Sponville pour tous ces éclairages, pour vos lumières. En effet, quand on se pose la question de savoir si la vie vaut le coup d'être vécue aujourd'hui dans le contexte actuel, tous ces éléments nous aident bien à envisager les choses un peu différemment. Merci à vous d'avoir suivi ce Matrioshka. On se retrouve très très prochainement pour un nouvel épisode de notre collection. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager, liker et faire connaître notre belle chaîne. À bientôt. Matrioshka.